Voilà, donc bienvenue à Fréquence Mistral. Aujourd'hui, une émission spéciale avec les marcheurs de la Terre, Bruno Lambert et Nelly Kars, qui sont... Vous avez tellement de cordes à votre arc que je ne sais plus comment vous appeler, des aventuriers, des sportifs, producteurs, réalisateurs.
Oui, mais déjà, bonjour Odile et bonjour à toute l'équipe de Fréquence Mistral. Oui, c'est vrai qu'on a plusieurs cordes à nos arcs, hein, tout simplement, ben voilà, parce qu'on est passionné. Donc, on est passionné de nature, on est passionné d'aventure, on est passionné de pédagogie, on est passionné de sport. Voilà, donc effectivement, ben, on essaye à chaque fois dans nos projets de faire un package de tout ça et surtout d'envoyer de l'espoir dans la tête des gens, d'inciter le public, alors les enfants, les ados, mais également les adultes, donc à contrer toute forme de fatalisme, c'est-à-dire qu'il faut agir. Voilà, on essaye en gros d'être un modèle d'action. Le projet Posidonia, bon, c'est un projet qui s'inscrit dans la grande ligne, je dirais, des marcheurs de la Terre, donc qui ont démarré en 94-95 avec des expéditions polaires, ensuite des expéditions en Amazonie, des expéditions donc dans le Sahara, en haute montagne, en Himalaya. Donc toutes ces expéditions à l'époque étaient suivies en temps réel par des établissements scolaires au début des Alpes de Haute-Provence et puis après ben, sur tout le territoire français. Et après, on est même allé jusque ailleurs dans le monde, quoi. Donc ces enfants nous suivaient à l'époque avec des moyens très très artisanaux puisqu'il n'y avait pas d'internet, il y avait juste la machine à écrire, le fax, la radio, donc et avec ça on se débrouillait, voilà, en direct de la banquise. Bon, depuis ben, ça a fait pas mal de chemin et puis en 2017, donc il y a eu cette rencontre avec Nelly qui elle arrivait des mers du Sud et qui était spécialisée dans la grande nage et dans la pêche. Alors que le projet Posidonia, bon, il est un petit peu à cheval vis-à-vis de la pêche, on en parlera après. Et pour faire simple, Nelly a passé 10 ans dans l'eau presque tous les jours. Moi, elle vous en parlera. Voilà. Elle arrive en métropole et puis décide de retrouver les marcheurs de la Terre qu'elle avait rencontrés petite quand elle était à l'école en Provence ou au collège.
C'est
alors moi, je m'en souviens absolument pas. Et c'est vrai que là, pour le coup, nos 20 ans d'écart bon, font la différence. Parce que nous, on a visité des centaines de milliers d'élèves en comptant tous les salons. Hein. Et donc, j'ai dû visiter l'école ou le collège de Nelly. Voilà, je ne sais pas. Et étonnamment, donc 20 ans après l'exploit du pôle, ben, elle reprend le flambeau et elle dit ben, « on va faire un projet dans l'eau, dans ma spécialité ». Moi, j'ai dit « ok ». On a commencé par faire la Dame des Lacs en 2017. Donc Nelly a nagé plus de 100 km sur toutes les grandes retenues de PACA pour faire un focus sur la ressource en eau douce. C'est un projet qui a été suivi également par les scolaires. Après quoi, Nelly a monté la société Octopus Production, donc une société de production audiovisuelle dans laquelle moi j'ai exercé comme réalisateur et chef de projet. Et puis, chemin faisant, bah, on a fait quelques documentaires de 52 minutes qui sont largement diffusés sur de nombreuses chaînes de télévision jusqu'à Posidonia. Voilà. Alors la Posidonie, c'est...
Qu'est-ce
que c'est que la Posidonie ? Nelly, tu veux expliquer ce que c'est que la Posidonie ?
Ouais. Bah allez. Ouais. Donc la Posidonie. D'abord la Posidonie, c'est... Les gens, quand ils vont au bord de mer, ils voient ce qu'ils appellent des algues qui sont là sur les plages et qui sont en train de prendre l'espace sur le sable. Ce ne sont pas des algues, ce sont des plantes à fleurs, en fait. Donc la Posidonie, c'est une plante à fleurs qu'on pourrait... Pensez à une plante de la famille des iris, par exemple, qui vit intégralement sous l'eau, en Méditerranée. Elle est endémique de Méditerranée, en tout cas celle-ci. Et c'est une plante, en fait, qui a une progression extrêmement lente et qui forme des herbiers sous l'eau et qui est devenue, en fait, au fil du temps, on s'en est aperçu, un peu la championne du monde de stockage de carbone. Donc, sachant que ces herbiers sont... extrêmement finalement vulnérables, notamment aux problèmes qui sont liés à la plaisance, parce que les gens vont jeter l'encre et arracher ces posidonies, par exemple. Connaissant la résilience de la plante, qui est quand même capable de coloniser énormément de milieux en Méditerranée, c'est devenu en fait un symbole de résilience et de protection de la Méditerranée. Donc la posidonie, c'est devenu un petit peu le symbole de cette bataille pacifique. Donc on a appelé notre documentaire Posidonia, tout simplement.
Alors, pour la petite histoire, la Posidonie serait donc la fleur du dieu Poséidon, donc du dieu antique Poséidon, le dieu de la mer, chez les Grecs. Donc, il fallait qu'on ait un titre qui flash un peu, et surtout qui ait un sens, c'est-à-dire que, voilà, c'est pas qu'un nom, c'est ce que vient de dire Nelly, quoi, c'est un emblème, voilà. Alors, Posidonie, c'est 400-450 km de nage.
Donc on est loin des 100 km qui étaient déjà une belle performance pour la Dame des Lacs.
Oui, surtout qu'ils étaient autonomes, c'est-à-dire qu'elle l'a fait toute seule.
Et là, 450... Et en mer, c'est quand même pas le même challenge.
Alors, c'est pas le même challenge. Bon, alors déjà, il faut savoir que le littoral PACA, parce que là, on travaille donc sur la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, fait à peu près 700 km de côte si jamais on suit la côte de très près. Donc, ce qu'on appelle le trait de côte. Nous, on a tablé sur entre 400 et 500 km, donc on va dire 450 km empiriquement, qui seront réalisés en une bonne quarantaine d'étapes sur quatre grandes saisons. Donc hiver, ça a commencé, printemps, été, automne. Pourquoi ? Parce que la problématique environnementale diffère selon la saison. Bon, par exemple, si on fait le focus sur l'été, la problématique en bas, ben, on le sait, c'est la surfréquentation, c'est la pollution de l'eau, c'est la pollution plastique, etc., etc. Voilà. Donc à chaque saison, on va dire son lot de problématiques. Ces 450 km, donc effectivement, comme vous le disiez, donc sont un petit peu plus engagés que les 450 km sur les lacs, pour la simple raison que la mer est pratiquée, il y a énormément d'usagers, donc il y a des bateaux de plaisance, il y a des bateaux de pêche, il y a des chenaux à respecter, alors les entrées, les sorties de port, il y a les couloirs de kitesurf, il y a les couloirs de planche, il y a les couloirs de... Enfin bref, il y a énormément donc de réglementations qui se superposent, et c'est vrai qu'il faut être très très vigilant, parce que on peut se heurter à plus fort que nous, un bateau moteur, on peut se prendre une planche à voile, etc., etc. Cela dit, il y a aussi des paramètres environnementaux, des paramètres météo, qui eux aussi sont nettement plus dangereux que sur les lacs, tout simplement. En lac, on a toujours la moyenne de se rabattre, on va dire sur le bord s'il y a un souci. En mer, c'est plus délicat, comme ça a été le cas déjà la semaine dernière. Bon, on a eu des houles qui étaient un petit peu houleuses, sans jeu de mots, quoi. Voilà, c'était un petit peu limite. Et le risque est un petit peu plus engagé. C'est pour ça que là, cette fois-ci, Nelly ne le fait pas seule. C'est-à-dire que moi, j'interviens donc en kayak. C'est-à-dire Nelly nage et moi, j'interviens en kayak. Alors, il faut bien noter que si exploit sportif il est du côté de la nageuse. On est bien d'accord. Un kayakiste de mer, faire, on va dire, entre 10 et 15 km par jour, ce n'est pas un gros exploit. Voilà. Moi, mon travail consiste en gros à faire le chien de garde, c'est-à-dire la sécurité de Nelly. Je suis ses oreilles, elle vous le dira, elle n'entend rien sous l'eau, elle ne voit rien sous l'eau. C'est important. Donc, quand vous avez un grand lac pour vous, il n'y a pas de souci. Mais quand effectivement ça circule de tous les côtés, ça devient plus problématique, surtout quand il y a des vagues, parce qu'on ne voit plus du tout la nageuse. Et je suis également chargé donc de faire les images en extérieur, c'est-à-dire des images avec caméra embarquée, du littoral en extérieur, pendant que Nelly, elle, filme sous l'eau. Ce qui fait que dans le film, il y a un film de 52 minutes donc, qui est en cours, là, qui rentre dans le dispositif Made in Doc. On va donc témoigner de l'état de ce littoral, mais témoigner d'une manière relativement objective, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de catastrophisme pour faire du catastrophisme. Effectivement, la problématique environnementale, on la connaît. Mais par contre, il y a encore des choses qui sont en état, et des choses qui sont belles, et des choses justement qui redémarrent, notamment les herbiers de Posidonie. C'est pour ça que la notion de résilience est très très importante, quoi. Ce film sera également donc un prétexte, on va dire, pour faire intervenir une bonne douzaine de protagonistes, donc des scientifiques, des biologistes, des plongeurs, il y a toute une palette de scientifiques qui vont apporter donc leur témoignage et leur point de vue d'expert pour compléter l'histoire de Posidonia. Tout ça est donc suivi en temps réel via donc le site de Posidonia, la page Posidonia, où on envoie régulièrement donc des bulletins de route comme on le faisait au pôle Nord en 1995, très complet. Pour donner un ordre d'idée, les bulletins, c'est quand même 3 pages. Donc, ce n'est pas un petit poste à l'arrache, quoi. C'est vraiment un suivi pédagogique en ligne.
Donc, j'essaie de comprendre comment vont se ponctuer les journées, puisqu'il y a de la nage sur l'eau et sous l'eau. En fait, vous n'allez pas filmer les 450 km sous l'eau. Comment on peut revenir déjà sur ce que vous avez fait déjà, puisque c'est commencé le parcours?
Oui, alors il faut savoir que d'abord, il y a eu une très longue période d'entraînement. Il y a quasiment 2 ans d'entraînement en amont avec des centaines de kilomètres de nage. Là-dessus, on va dire c'est ce qu'il y a en amont. Avec une énorme concession de ma part, c'est que je suis aussi allée m'entraîner en piscine. Bon, c'est pas tout à fait mon truc, la piscine. Je préfère être en milieu naturel. Tout simplement parce qu'en milieu naturel, on rencontre des problématiques qu'on n'a absolument pas en piscine. Et donc, ça nous aide à mieux nous connaître, mieux connaître le milieu, mieux se connaître soi-même. Et donc, être plus en capacité de s'adapter en fonction des conditions réelles du challenge. Alors, la façon dont les choses vont se découper, on va dire, sur d'abord, Posidonia, c'est une nage qui va durer tout 2024 et qui a déjà commencé. Tout 2024, à raison, on va dire, empiriquement, d'une semaine sur deux sur la côte pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on nagera tous ces jours-là, parce qu'après, il va falloir jongler avec la météo, avec les accès, avec la réglementation. Et au final, on va se retrouver sur des étapes qui peuvent faire, par exemple, une dizaine de kilomètres, 5-6 heures de nage. On est sur une nage extrêmement lente, qui est de nage endurance. Et donc, ces étapes-là sont filmées. Alors, par Bruno, qui peut être sur son kayak. Ça peut être à terre également, quand on se prépare. Et ça peut être également sous l'eau. C'est-à-dire que quand je nage, ok, je nage, mais je fais aussi des images. Donc, quand il y a quelque chose de particulièrement pertinent à montrer, je descends en apnée, par exemple. Je me pose avec ma caméra et je le montre. Il y a ce côté, finalement, live réel. Donc, on sait empiriquement ce qu'on peut rencontrer, mais après, il y a les véritables surprises. L'autre jour, par exemple, on était, mais d'ailleurs, c'était la semaine dernière, on était au camping Santa Gusta à La Ciotat, qui est un camping partenaire du projet, parce qu'on a pas mal de partenaires sur ce projet qui vont, on va dire, nous donner des petits ou des gros coups de pouce sur différents domaines. Et au petit matin, bon, on a eu un banc de dauphins qui passait juste en dessous. C'était splendide. C'est un vrai cadeau, c'est magnifique. Donc là, on va dire, on est sur quelque chose de complètement imprévu. Alors, on n'était pas à la nage, mais bon, j'ai rêvé des dauphins toute la journée, hein, en espérant qu'ils viennent me voir, ils ne sont pas venus. Donc il y a donc ce découpage, on va dire, des journées qui consiste à se lever tôt le matin, très tôt, vraiment très tôt. Au plus on est loin de notre hébergement, au plus il faut rouler, en plus il faut trouver des places pour les parkings qui sont accessibles pour la mise à l'eau, pour le kayak, c'est complexe. Ensuite, il y a la mise à l'eau et un temps de nage, on va dire, qui se détermine un petit peu au fil du temps aussi, c'est-à-dire que si la météo change, on va raccourcir ou modifier l'étape. Et ensuite, on va sortir empiriquement à la mi-journée de l'eau. Et la journée est loin d'être finie. Il va falloir préparer nos futurs postes pédagogiques, réparer le matériel, dessaler le matériel, sauvegarder les images, faire des interviews complémentaires, faire des images complémentaires. On se retrouve sur des journées extrêmement chargées. Et le lendemain matin, rebelote. Le rebelote avec des températures qui sont fraîches. Donc moi, je ne me mets pas à l'eau vraiment volontiers, même si je suis très bien équipée. Même une fois que je suis réchauffée, après, ça va.
Donc, il y a la combinaison, j'imagine, complète.
J'ai du matériel qui est, pour le coup, performant, même si je pense que la performance ne vient jamais vraiment du matériel.
Oui.
Mais bon, ça aide, il faut dire la vérité. En hiver, pour passer une heure dans l'eau, on peut prendre une combinaison de 3 mm de triathlon, ça va. Quand on en passe 6, c'est plus pareil. Donc, d'autant plus qu'on n'est pas sur une nage de course. Il faut aller lentement. Il faut se poser en statique pendant longtemps pour faire des images. Donc, on est sur une nage qui refroidit considérablement. Donc, je vais mettre deux combinaisons l'une sur l'autre. C'est pas mal. C'est une bonne méthode. Il faut avoir de très bonnes combinaisons suffisamment élastiques pour que ça ne gêne pas au niveau de l'amplitude des mouvements. Ensuite, j'ai des grandes palmes de chasse sous-marine qui sont des palmes, pour ceux qui connaissent, à voilure médiane. C'est-à-dire qu'elles sont ni trop fortes, ni trop douces, qui permettent une certaine endurance. Et puis, j'ai des plaquettes aux mains. Donc, les plaquettes permettent, on va dire, d'équilibrer la traction et la propulsion. Cagoule, le gant, etc., etc. Et je tire une bouée qui est à la base une planche de chasse sous-marine dans laquelle je mets du matériel. Pourquoi une planche de chasse sous-marine ? C'est parce qu'elle permet de mettre du matériel dedans, tout simplement. Et dans laquelle je peux mettre à manger, à boire et également de quoi faire des images. Matériel, on va dire, de rechange, on va dire immédiat, si je casse mon masque, par exemple.
Et pour la plongée, c'est en apnée ou...
Ça se fait en apnée. Alors, le problème...
Pas de bouteille, bien sûr.
Il y a des images qui sont faites en bouteille, mais pas ces jours-là.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est des images qui sont faites sur d'autres sessions de tournage. De même qu'il y a des images de drones aussi qui sont faites sur d'autres sessions de tournage. La réglementation drone, c'est bien complexe sur la côte. Il faut s'accrocher. Donc là, pour le matériel, on va dire images dans l'eau, on est sur une caméra embarquée type GoPro, très simple. Et puis s'il faut descendre en apnée, le fait d'avoir deux combinaisons, ça donne une flottabilité incroyable. Je peux pas couler comme ça, c'est très fatigant. Donc j'ai une ceinture de plomb qui est tout le temps sur le kayak. Et j'appelle Bruno, j'attrape la ceinture, je me fixe la ceinture, je descends comme une pierre parce que j'ai bien lesté ma ceinture. Et comme ça, je peux me poser, faire des images tranquillement.
C'est pour ça qu'on a différencié ce qu'on a appelé la nage exploratoire, c'est-à-dire en fait, ce sont des étapes qui sont relativement plus courtes en distance, mais qui peuvent être tout aussi longues en temps, tout simplement parce qu'il y a des centres d'intérêt. Alors, soit on les a checkés au départ, soit on les découvre au fur et à mesure. Alors, un centre d'intérêt, ça peut être un herbier de Posidonie en excellent état, ça peut être effectivement une population de mérous à faible profondeur, ça c'est une belle chose, mais ça peut être aussi donc tout un lot de voitures sous l'eau, des motos, etc., etc. Une pollution historique qui remonte donc à des décennies et des pollutions beaucoup plus récentes. Donc en fait, c'est ce qu'on essaye de faire. Quand on parle de centre d'intérêt, quand on parle de milieu remarquable, c'est ça. C'est-à-dire ce qui est beau et ce qui ne l'est pas. Et on essaye effectivement donc de justifier tout ça. Après, ça c'est pour la nage exploratoire. Et puis après, il y a des nages linéaires. Donc, qui, elle, se rapproche plus de la nage sportive. C'est-à-dire que quand Nelly va nager 12, 13 kilomètres sur 4h30, 5h, plutôt que 7 sur 6h, on a bien compris que c'est pas la même cadence. Voilà. Et en fait, c'est le meilleur moyen pour arriver donc à dresser un panorama vraiment objectif de ce littoral. Je précise, complété par des experts qui sont interviewés tout au long du projet. Voilà.
Alors, juste pour y voir plus clair, vous ne serez que deux pour gérer tout ça ?
On n'est que deux.
C'est-à-dire que ça demande aussi à toi, Bruno, d'être sportif pour maintenir le kayak aussi.
Ah, c'est très, très
sportif.
Parce
qu'en mer, c'est pas facile non plus, avec les vagues.
C'est très sportif, d'autant qu'il faut porter le kayak des fois sur des accès de mise à l'eau qui sont très, très raides et très longs. Il y a tout le matériel connexe. C'est très lourd, hein. Il y a énormément de matos. Oui, c'est très, très, très physique, quoi. Il est évident que, bon, ben...
Et ça risque pas de se retourner,
enfin, bien sûr.
Eh oui.
Tout est amarré, c'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai opté pour un kayak non ponté, alors pour ceux qui font du kayak, c'est-à-dire qu'en fait c'est ce qu'on appelle un sit on top, relativement large, et en fait c'est une véritable station de tournage et de sécurité. Donc, et tout est attaché, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme ici, on mousquetonne tout, tac, 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 tout est mousquetonné. Et si moi je me bac, je me retrouve dans un réseau de spaghettis abominables, qui peut être très dangereux, qu'il faut savoir couper, parce qu'on peut aussi s'étrangler selon les conditions. Oui, ça demande une très grande préparation. C'est pour ça que Posidonia, dans la mesure où ça se passe sur notre littoral, qui est très urbanisé, moi je ne parle pas vraiment d'expédition, on va parler de challenge. Mais on va dire que c'est toute l'antériorité des expéditions des marcheurs de la Terre qui nous permettent de faire ça. C'est évident que quand moi je partais pendant 2 mois ou 3 mois en solo en Amazonie ou autre, les conditions étaient encore autres, quoi. Voilà. Mais ce qui, moi, me laisse beaucoup, beaucoup de marge, parce que bon, c'est vrai que je n'ai plus la caisse que j'avais quand j'avais 25, 30 ans et compagnie, mais par contre, j'en ai encore une bonne. Donc il faut quand même s'entraîner. C'est clair. Et s'entraîner beaucoup plus, parce que quand on est senior, comme on dit maintenant, on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de performances. Par contre, l'entraînement doit être vraiment régulier, régulier, régulier. On a un temps de récupération qui est beaucoup plus long. Par contre, ça donne envie de tirer jusqu'à 80, quoi.
C'est... Plus que ça, quand même.
Plus, hein. Mais dans l'action, je parle.
Oui, dans l'action. Donc, très, très sportif, très physique, beaucoup de préparation, une organisation sans faille. Il faut vérifier à chaque fois le matériel avant de partir. Et puis, alors, l'échauffement, vous vous levez très tôt. L'échauffement, ça ressemble à quoi ? Pour toi, Nelly, on va pas tout de suite nager. C'est
Disons que quand je me mets à l'eau, ça fait déjà plusieurs heures que je suis debout.
Oui.
là-dessus, on va dire que je suis assez réveillée.
Oui.
Après, la première heure, systématiquement, pour moi, c'est la première demi-heure. C'est une demi-heure en fait de mise en forme. Je vais doucement, ça, je monte un peu la cardio. Il faut savoir que comme on est sur de la nage endurance...
Mais c'est de la nage, ça ne peut pas être une petite course.
Je ne vais pas faire de petite course, je ne vais pas faire d'étirement, je vais à l'eau. Non. Le simple fait d'avoir transporté le matériel, etc., etc., on est suffisamment réchauffé, pas de problème. ne serait-ce qu'enfiler la combinaison. Je mets au défi quelqu'un de l'enfiler sans vraiment se luxer quelque chose, c'est pas si simple.
Alors, déjà l'enfilage, mais après pour enlever, on découpe tout ou quoi ?
Non, et puis il faut pas l'abîmer. Du coup, la première demi-heure de nage, c'est une demi-heure, on va dire, de mise en train. Et puis après, en fonction du type de nage, on va dire, de la journée, je peux adopter un rythme, on va dire, plus régulier, plus rapide, ou aller explorer par-ci, par-là. Mais la première demi-heure, oui, on pourrait la qualifier d'échauffement.
Entre la mise à l'eau et la sortie de l'eau, il y a 3 heures, on va dire, de préparation. Mm-hmm. Montage, démontage. Voilà. Et après, comme disait Nelly, on arrive en poste sec. Et à ce moment-là, il faut traiter les images, les sauvegarder, noter les anecdotes du jour, contrôler la météo du lendemain, parce qu'en fait, il y a un contrôle météo qui se fait d'heure en heure. Hein, donc aujourd'hui, on a la chance effectivement de pouvoir avoir des prévisions relativement justes en météo marine, quoi. Ce qui ne nous empêche pas de regarder le ciel. Hein. Il faut toujours regarder le ciel et l'état des vagues, quoi. Et tout ça, ça permet aussi de réadapter l'étape du lendemain. C'est-à-dire que si à un moment donné, l'étape du lendemain, bah, c'était une nage qui était, très exposée au vent d'est, mais que cette zone du littoral nous offre, on va dire, quelques calanques un peu plus abritées, d'une grande lage linéaire, ça peut devenir une nage exploratoire plus abritée dans ces calanques. Et après, on essaye de rééquilibrer. Voilà. C'est pour ça que c'est pas très strict au niveau du nombre de kilomètres qui va être parcouru et que je préfère dire entre 4 et 500, sachant que ça va être, à mon avis, on va vraiment tourner autour de 450. Là, depuis le début, on a fait 58. Enfin, Nelly a fait 58 à la nage, parce que moi, je fais un petit peu comme un chien de berger. Hein. Je vais, je tourne, je scie, je ça, donc il faut multiplier largement par deux, voire par trois. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus facile en kayak qu'à la nage. Mm-hmm. Et voilà, donc il y a encore du pain sur la planche, quoi.
Et une combinaison aussi, quand on est sur le kayak?
Oui, alors à cette époque, moi, j'ai ce qu'on appelle une combinaison sèche. Hein, donc c'est un petit peu comme une combinaison skipper, un grand kawaii, on va dire, intégral. À l'intérieur, ben, j'ai du néoprène pour la partie basse, j'ai des chaussons, j'ai un gilet de sauvetage donc, que je mets systématiquement tous les jours en période d'hiver parce que l'eau est froide et avec tout ce que j'ai à bord, je peux avoir un mauvais coup. Bon, l'autre jour, je me suis pris un coup de pagaie dans les dents parce qu'on avait un effet venturi. L'effet venturi, c'est quand le vent se concentre dans un goulet et ça a été très très violent. Ben ça suffit donc pour se péter le nez ou les dents, basculer, tomber à l'eau et faire un malaise. Donc du coup, à cette époque-là, je mets le gilet. Et petit à petit, on va dire que quand on va arriver sur l'été, le cœur, le pic de l'été, on va l'éviter. On va faire les ailes de l'été, c'est-à-dire avant et après, pour éviter vraiment tout ce monde-là. Ben, c'est évident que là, ce sera short et t-shirt, hein, de toute façon. Voilà. Et le gilet sera mis uniquement quand les conditions de mer seront donc justifiées, quoi.
Donc, c'est pas sans risque.
Non, c'est pas sans risque.
Ça va être passionnant, mais...
Ça se fait pas au hasard.
Oui, oui.
Et c'est pour ça qu'au début de l'émission, je voulais parler d'espoir et de résilience. Alors, nous, on travaille sur la résilience du milieu naturel. Mm-hmm. Mais en fait, il y a qu'un pas à faire sur la résilience du milieu humain. C'est-à-dire qu'effectivement... Donc, moi, j'ai l'impression que pendant 35 ans d'exploration, j'ai tiré des sonnettes d'alarme. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai utilisé mes aventures pour dire « attention, la forêt est massacrée, les Indiens ont été massacrés, la banquise fond, les ours, etc. etc. » On était vraiment dans, on véhiculait ces clichés qui étaient des clichés réels. Au jour d'aujourd'hui, on le sait. Maintenant, tout le monde le sait, sauf celui qui ne veut pas le voir. C'est limpide. Mais voilà, on le sait. Donc c'est plus trop la peine d'insister de ce côté-là. Je crois que maintenant, le message d'un aventurier, d'un explorateur, c'est de dire « bon, ben maintenant, on le sait, ben on se bouge et on essaye de faire marche arrière. » Tout simplement. Et ce message-là était bien perçu parce que sur la page du projet Posidonia, beaucoup de gens nous ont contactés. Donc, et on se rend compte que sur le littoral, il y a plein d'individuels, d'associations, de petits groupes, des écoles, des collèges, etc., qui se bougent, mais qui se bougent véritablement. Il y a un noyau de population qui est considérable et qui chacun œuvre dans son domaine, alors soit pour ramasser malheureusement les ordures des autres, soit pour faire de l'éducation à l'environnement sur les plages, soit pour distribuer des petites boîtes donc à mégots, etc., etc. Et en fait, chacun à son niveau, que ce soit sur le littoral, sur le sable ou dans les grandes profondeurs, essaye effectivement donc de faire en sorte que ce littoral soit équilibré autant pour les populations humaines que pour la nature, quoi. Alors que quand on travaillait dans les Alpes, je ne veux pas dire qu'il y a moins de gens qui se bougent, mais le bassin de population étant beaucoup plus éthéré, on va dire, et beaucoup moins de monde, on sentait moins cet effet-là. Voilà. En bas, il y a du monde. Du bon et du mauvais.
Vous prévenez, j'imagine, aussi beaucoup autour de vous quand vous avez le circuit qui est établi Alors, comment ça se passe au niveau des endroits que vous traversez?
Pas trop, justement.
Oui, justement. Côté communication, bon, faut savoir qu'on peut être assez minimaliste dans certains domaines, quand il le faut. Mm-hmm. Le jour où je me mets à l'eau, personnellement, je préfère éviter qu'il y ait trop de monde sur la plage et qu'ils viennent pour nous rencontrer. Ou alors, s'il y a des rencontres, qu'elles soient vraiment prévues et cadrées. De même que si, quand je sors de l'eau, il y a des personnes qui ont pu nous voir et qui voudraient nous suivre, et qui veulent me parler quand je sors de l'eau, je serais bien incapable de répondre actuellement parce que l'eau est tellement froide qu'en sortant, je peux difficilement parler. Donc, de ce côté-là, on évite, on va dire, de faire trop de mouvements pour que des personnes ne viennent nous voir sur telle ou telle étape. Par contre, il y a des rencontres qui sont prévues avec des scolaires. Il y a des rencontres aussi avec les médias. Donc, on espère vous voir aussi.
Oui.
Il y a pas mal de choses, en fait, qui sont prévues et posées sur calendrier. Ensuite, côté réseaux sociaux, moi, on travaille uniquement sur Facebook. C'est un choix délibéré. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être partout. On est déjà sur beaucoup de postes, c'est pas pour rien qu'on s'appelle Octopus. Hein. Vous pouvez imaginer un poulpe, donc à la tête, c'est nous deux, avec plein de tentacules qui font tout. Donc si on passait tout notre temps, on va dire, sur les réseaux sociaux, ce serait tellement très avantageux pour le projet, d'une certaine manière, pour le faire connaître. Mais d'un autre côté, pour nous, ça pourrait être un désavantage à ce qu'on ne pourrait plus garder, on va dire, avec nos petits moyens, la qualité du produit fini. Et on tient particulièrement à cette qualité. C'est-à-dire que le documentaire, quand il est terminé, il est tip-top. Quand on passe et qu'on a un rendez-vous avec des scolaires, on se pose, on prend le temps et on fait passer des messages. On évite de faire les choses à la va-vite, en fait. On se pose, on fait les choses tranquillement, on met en avant la qualité des relations humaines, chose qui, malheureusement, se perd de plus en plus. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de retour de ce côté-là, que les gens tentent aussi d'améliorer ce côté-là. Mmh. C'est ce que je perçois actuellement. Donc, on va dire, il y a tout cet aspect-là, on va dire, communication, qui peut être relayé, on va dire, amplement par les médias, notamment parce que le documentaire est préacheté par France Télévisions, donc ils travaillent aussi à la communication là-dessus. Et ça fait son petit bonhomme de chemin, sachant que quand le film sera terminé, il faut savoir que ce sera en 2025, probablement mi-fin 2025, probablement plus la fin. Il va d'abord passer sur France Télévisions, et ensuite on l'exploitera avec d'autres télés, et surtout en ciné-débat. C'est-à-dire qu'une fois que le produit est terminé, nous, bon, on a de la bouteille derrière, hein, on aura nagé toute une année, on aura rencontré toutes les personnes interviewées qui sont des personnes absolument passionnantes, on apprend énormément d'eux. On va arriver donc en ciné-débat avec notre petit bagage qui peut être assez considérable au final quand on regarde la durée d'un documentaire qui dure que 52 minutes. Il faut vraiment faire des choix.
Ça paraît très très peu.
52 minutes, c'est extrêmement court. C'est un format télé assez polyvalent, mais c'est très très court.
C'est un format imposé pour la télévision ?
C'est un format qui est imposé, non, parce qu'on a fait le choix de rentrer dans cette case.
Oui.
Il y a d'autres télés qui ont d'autres formats. Mais oui, on va dire que dans ce cadre-là, on pourrait parler d'une forme d'imposition. Ouais.
Oui, c'est quand même un standard.
C'est un standard, ça, c'est sûr. Mais après, pour nous, c'est très bien aussi en conférence, parce que 52 minutes, bon, bah, au niveau du temps d'attention des gens, c'est super. Et puis, ça laisse du temps pour le débat. C'est pas mal du tout. Les scolaires tiennent bien aussi, ils accrochent bien sur les 52 minutes. Au final, c'est pas si mal. J'en suis assez contente. Et donc, quand le film est terminé, on se retrouve à parler en ciné-débat. Et là, moi, c'est là que je trouve que c'est vraiment le cœur de notre travail. Alors, le ciné-débat, ça s'étend évidemment auprès des scolaires aussi. Donc on travaille via le dispositif Passe Culture avec tous nos documentaires sur la thématique de l'eau jusqu'à présent. Donc ça c'est pas mal parce que ce dispositif permet des financements que malheureusement les établissements scolaires n'ont plus, hein, faut dire la vérité. Donc là ben, les élèves on peut soit les rencontrer après qu'ils aient travaillé sur le film avec leurs enseignants, soit on les rencontre donc dans l'établissement, soit on les amène carrément sur les lieux du tournage. Puisque comme on est éducateurs sportifs tous les deux, on est accompagnateurs en montagne. Si le terrain est un peu, on va dire, accidenté, entre guillemets, il n'y a aucun problème, on peut y aller. On n'est pas obligé de rester sur la route ou sur des sentiers, type des grandes pistes, quoi. On peut sortir de tout ça et amener sur les lieux du tournage les jeunes. Donc ça, c'est pas mal parce que du coup, pour les jeunes qui ont pu travailler, on va dire, sur le film, ils ont vu le film, ils ont travaillé avec leurs enseignants, ils nous rencontrent. Et le top du top, c'est quand on peut les amener sur les lieux qu'ils ont vus. Donc ah oui. Là, on se retrouve sur un travail de fond. C'est-à-dire que c'est pas juste on va appuyer sur la télécommande et voir quelque chose, quoi. Pas du tout. Il y a un vrai travail de fond. Et moi, je considère que le cœur de notre travail, il commence quand le film est fini et qu'on peut commencer à l'exploiter comme ça.
C'est un vrai travail social là, qu'on fait à ce niveau-là. Parce que bien sûr que oui, on fait de l'éducation à l'environnement, on partage. Mais en fait, on se rend compte que des élèves qui sont très timorés, qui sont généralement, ils ont le nez sur le téléphone en permanence, ils décrochent pas du tout. Et ben petit à petit, quand on les voit une fois, deux fois, trois fois, parce qu'il y a des classes qu'on a vues, ben, d'abord, les liens se créent. Et en fait, c'est réellement un travail social. On se rend compte que l'écologie, l'aventure, le rêve, l'émerveillement, en fait, ça fait du bien, tout court. Voilà, et à des gens qui en ont besoin. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Et Nelly disait que les 52 minutes, enfin les films, donc c'était une prolongation de l'aventure, mais c'est assez conséquent. Je crois que La Dame des Lacs, pourtant qui n'est pas très vieux, qui date de 2017, a près de 400 diffusions télé, déjà,
wow.
Depuis 2017. Et donc les films que j'ai faits en article dans les milieux des années 90... continue à tourner dans les formations spécialisées et il m'arrive encore de faire des conférences sur l'Arctique. Mais cette fois-ci, c'est surprenant, c'est même gravissime parce qu'en fait, ça passe comme étant des témoignages mais des archives. Alors que 95, c'était hier, quoi.
Oui.
Voilà. En fait, l'accélération donc, du réchauffement fait que... Moi, je m'étais dit, quand je ferai ces films-là, ben, quand j'aurai 80 balais, ça fera figure d'archives, mais pas maintenant. Mmh. Et pourtant, ça l'est déjà, quoi. Donc, l'histoire continue, continue, continue. Voilà. Mmh. Donc, on peut supposer que, effectivement, ce film Posidonia, bah, fera comme La Dame des Lacs ou le reste. C'est-à-dire que dans 30 ans, ça devienne encore un document qu'on va donc consulter pour voir comment c'était à cette époque-là. C'est pour ça qu'on marque bien la notion de témoignage. Voilà.
Ce qui est intéressant aussi dans cet aspect de témoignage, c'est que finalement, quand on arrive en conférence, on peut parler vraiment de ce qu'on a vu. C'est pas comme si on avait appris une leçon. Donc on l'a vu, on l'a vécu dans nos chairs. C'est particulièrement intéressant. Qu'on essaie de faire passer parmi, on va dire, tous les messages, c'est celui du rêve, c'est-à-dire le droit au rêve, le droit de réaliser ses rêves, la capacité de le faire aussi. C'est-à-dire que moi, j'y tiens beaucoup, hein, particulièrement. On a de la chance, on va dire, dans un pays relativement riche, qui n'est pas en guerre, où franchement, on peut critiquer la France sur plein de choses, mais on est dans un pays quand même assez confort. Hein. Quelqu'un qui naît ici et qui est en bonne santé à sa naissance a toutes les chances de réaliser ses rêves dans sa vie. C'est formidable. Mmh. Sauf qu'on s'aperçoit que quand on intervient avec des scolaires, par exemple, qu'à 14 ans, 15, 16, ça y est, les rêves sont déjà partis. Ils sont où ? Et donc, nous, ce qu'on essaie de stimuler, c'est quels sont vos rêves ? Comment vous pourriez les réaliser ? Regardez, nous, on est peut-être des extrêmes à notre manière, mais on est plein de rêves, on n'aura jamais assez de toute une vie pour les réaliser. Et c'est complètement formidable de se dire que oui, on peut orienter sa vie de manière à réaliser ses rêves. C'est faisable, quoi. Enfin, nous, en tout cas, on a cette chance.
Moi, j'aime beaucoup citer Théodore Monod, qui est décédé, qui était un savant, explorateur, naturaliste, théologien, un grand solitaire, un grand humaniste, parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec les équipes de tournage qui ont fait son dernier film, qui recensait donc toutes les plantes sahariennes et subsahariennes, et il en manquait une dans sa tête. En fait, il l'a trouvée à 98 ans. Il avait ses deux cannes, son équipe de tournage et tout. Il avait trouvé le moyen de plaisanter encore au bivouac derrière le feu. Et il a trouvé, donc c'est une forbe, c'est une plante, hein. Et là, il s'est arrêté. Et il a dit, en gros, là, je suis fatigué, je vais m'arrêter. Tranquillement, voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important. C'est quelque chose qu'il faut garder, quoi. Voilà. Et dans le monde de l'aventure, ben, un petit peu comme chez les artistes, d'ailleurs, hein, parce que c'est un art de vivre, hein, chez les chanteurs, chez les musiciens, on va durer très longtemps. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, si on est en accord avec soi-même, ben, on transmet. Et le public qu'on a, quand on l'a réellement en face, quand on l'a en face... Ben, comme toi dans un concert, tout simplement, nous en conférence, il y a un échange réel, quoi. Il te recharge. C'est hyper important. Ouais. C'est pour ça que l'écran, c'est un danger. Et nous, on veut vraiment rencontrer les gens. Et le concept même des Marcheurs de la Terre, qui est une marque, hein, donc une marque de programme éducatif, c'est qu'en fait, toutes les personnes qui interviennent dans le cadre des formations, des conférences, doivent justifier d'une expérience très concrète et longue du terrain. Parce qu'en fait, faire du copier-coller, parce qu'on sort avec un pas plus 10 pour parler de ça, si on n'a jamais rien vécu, c'est pas la peine.
Et on n'est pas au bout de l'aventure avec vous, Nelly Cars et Bruno Lambert.
Non, ça devrait continuer. Ouais.
J'adore vous suivre dans vos folles aventures. C'est des challenges très sportifs, mais aussi tellement riches après de ce que vous en faites, que ce soit les films, mais aussi les questionnements auprès des jeunes. Quelles sont les questions qui reviennent quand vous rencontrez des scolaires après ces exploits sportifs et...
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, je vais juste revenir, Odile, sur le suivi, parce que là, c'est vrai que c'est une bonne perche. Le suivi, on va prendre Posidonia, parce que c'est une particularité dans nos projets.
Oui.
On a mis en place, donc, sur le site d'Octopus Productions, une page qui est dédiée, en fait, au suivi pédagogique de la nage.
D'accord.
C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait, par exemple, une semaine, on appelle ça une mission de nage. Ensuite, on va faire un bilan avec vidéo, photo, bulletin de route, structuré et posté. C'est-à-dire que n'importe qui peut aller consulter déjà ce suivi. Là-dessus, dans ces bulletins de route, il va y avoir ce qu'on a rencontré et aussi, on va dire, ce qu'on pourrait appeler nos états d'âme, cet aspect, on va dire, qui est peut-être plus introverti. Et donc, tout est mis en ligne et on essaie de synthétiser ça. Il y en a à peu près 2 par mois qui sont postés. Ça va être surtout 2024. Alors ça, c'est pour le suivi spécifique.
Oui, c'est pas un travail quotidien quand même.
Non, il n'y aura pas
de mise en ligne.
Non, bah, c'est quand même un gros travail.
Oui.
Et puis on veut
le
faire propre, on ne veut pas vacler les choses.
Il y a le montage.
Donc si on veut mettre des trucs en ligne tous les jours, on peut en mettre une photo avec un petit like. Hein. Mais ce n'est pas le but. Non. Après, les questions qui reviennent, en fait, ça dépend vraiment des projets. C'est-à-dire que tous les projets, même si jusqu'à présent, depuis qu'on travaille ensemble avec Bruno, on est quand même sur la thématique de l'eau. Donc les questions vont souvent être orientées sur qu'est-ce qu'on peut faire nous Bah, écoutez, nous, on n'est pas là pour vous dire ce que vous pouvez faire. Hein. C'est pas notre travail. Et puis, qui peut le dire, ça? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Bah, chacun peut faire des choses, on va dire, à sa manière, à son niveau, avec ses capacités, ce qu'il est à ce moment-là de sa vie, qui sera certainement différent de ce qu'il sera 20 ou 40 ans plus tard. Chacun peut faire des choses, on va dire, très, très diversifiées. Sur l'eau, on a eu pas mal de questions qui étaient orientées, là on est sur de l'eau douce, sur les sécheresses, les phénomènes extrêmes. Comment vous voyez les choses, par exemple, pour l'avenir. Donc souvent, on nous pose la question sur, comme si on était des personnes capables de donner des solutions. Sauf que la solution, nous, on ne l'a pas plus que d'autres.
Ça, c'est dommage.
Non, on ne l'a pas plus que d'autres. Les solutions, elles sont amenées, ou en tout cas, elles sont espérées par des communautés scientifiques qui sont extrêmement performantes. Nous, on se considère plus comme des passeurs, finalement, des vulgarisateurs. Donc, des passeurs entre le milieu et les gens qui s'en éloignent. Des vulgarisateurs parce qu'on étudie quand même bien la question et on rencontre beaucoup de personnes qui sont des scientifiques qui nous apprennent aussi à vulgariser. Donc on a derrière une grande matière de ce côté-là. Et les questions sur la thématique de l'eau qui sont beaucoup revenues, elles étaient souvent liées aux phénomènes extrêmes qu'on a connus ces derniers temps. Donc par exemple, les tempêtes dans le Vésubie, elles ont marqué et c'est une chose dramatique. Les sécheresses, elles sont aussi assez impressionnantes. Quand on a fait la Dame des Lacs en 2017, c'était touchant parce que c'était notre première grosse sécheresse dans le secteur depuis très longtemps. Quand je nageais en 2017, c'est simple, il y avait de l'eau nulle part. Sauf dans les lacs. C'est-à-dire que les nappes phréatiques s'asséchaient de partout et moi, je nageais dans l'eau en permanence. J'étais submergée par l'eau. Il y en avait partout là où j'étais, sauf que les collines aux alentours, elles étaient exsangues, quoi. Il n'y avait plus d'eau. Donc, les questions qui étaient orientées là-dessus, elles étaient sur est-ce que vous pensez que les prochaines années, ce sera comme ça? On le sait parfaitement. Par exemple, que les prochaines années, les phénomènes extrêmes peuvent s'amplifier. Après, au niveau des questions qui sont revenues de manière assez récurrente et que moi j'ai trouvé intéressantes, elles sont liées surtout à ces messages, on va dire, d'espoir qu'on essaie de faire passer. C'est-à-dire que les gens percutent quand on leur parle d'espoir, parce que franchement, on est quand même assez submergé par des actualités où on parle de mauvaises nouvelles, de choses terribles, et on voit mal ce qui va bien finalement. Et au final, qu'est-ce qui revient? C'est des questions qui sont liées à ce message d'espoir. Et je pense que c'est une bonne chose, ça veut dire que les choses sont entendues.
C'est vrai que les gens sont très inquiets, très, très anxieux, beaucoup plus qu'ils ne l'étaient avant, donc d'une manière complètement disproportionnée. Parce que comme on disait tout à l'heure, effectivement, la problématique environnementale, elle se décline en différentes choses. Il y a les conséquences du réchauffement climatique, il y a effectivement donc, les différents types de pollution, la chute de la biodiversité, tout ça on le sait, c'est pas propre à PACA, c'est partout sur la planète. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un manque de discernement. Alors c'est pas à critiquer, c'est qu'il y a un manque de culture générale, on va dire, sur cet univers-là. Et le message médiatique arrive de plein fouet comme un coup dans le nez. Et les gens n'ont pas la capacité intellectuelle et la connaissance pour décrypter le message derrière. Et c'est pour ça que nous, on fait un pont d'honneur, on va dire, aux scientifiques avec qui on travaille, quoi. Ces gens-là, écoutons-les, quoi. Parce qu'en fait, ce sont pas spécialement des gens qui tirent une sonnette d'alarme. Ce sont des gens qui enseignent. Mais eux aussi, on leur coupe la parole, quoi. Et on a eu d'excellents retours de la part de vieux scientifiques qui nous ont remerciés, qui nous ont dit « Heureusement que vous, les aventuriers, vous êtes là. » Alors, ils faisaient référence à nous, ils faisaient référence à Jean-Louis Etienne et à d'autres bien avant, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment un travail en commun, mais on se rend compte, enfin moi c'est ce que j'en déduis, c'est que l'impact, je dirais, du message médiatique n'est pas toujours décrypté par Monsieur Tout-le-Monde. Donc du coup, ça crée une anxiété générale et les gens ne savent pas exactement ce qui se passe. Alors nous, effectivement, on joue la passerelle, on joue le tampon, parce qu'on a cette capacité de vulgariser, voilà. Et c'est des réponses, effectivement, qu'on offre systématiquement, tous les jours, même dans la rue. Moi, il y a des enfants ou des adultes l'autre jour. Donc la mère, elle n'est pas finie, alors elle n'est pas morte. Mais non, la mère n'est pas morte, mais elle n'est pas en bon état. OK. Donc, et on fait un petit topo. L'autre jour, une journaliste, comme toi, elle m'a posé la question. Mais en fait, la Posidonie, précisément, c'est quoi? Donc, à quoi ça sert? Et je lui ai fait un topo d'une demi-heure, elle a dû louper son bus. Enfin bon, sur la Posidonie, elle était heureuse. Elle m'a dit, j'avais pas compris ça comme ça. Pourtant, elle avait déjà traité plein de sujets.
Et oui.
Trop vite. Voilà. Donc, et là, on en revient au système scolaire qui, de toute façon, pour moi, bâcle tout. Voilà. Alors, je vais pas jeter la pierre aux profs, mais par contre, les programmes sont faits d'une manière complètement incohérente. Voilà. Ça, c'est clair. Donc on est à chaque fois obligé de rattraper en fait des mécaniques, des connaissances élémentaires comme le cycle de l'eau, comme la rotation de la Terre, la formation des saisons, qui sont des choses élémentaires qui s'apprenaient. Bon, on a le même âge tous les deux, Odile, qui s'apprenaient quand on était en primaire, quoi, tout simplement. Voilà. Bah, aujourd'hui, le gamin, il sort du lycée, il ne le sait toujours pas, quoi.
J'ai eu une discussion assez intéressante récemment avec un jeune par rapport à ça. Donc, il me disait, nous, quand on apprend quelque chose, en fait, au collège, c'est pour avoir des bonnes notes. C'est pas pour retenir. C'est une réalité qui concerne beaucoup d'étudiants. Je pense que encore peu de temps auparavant, on va dire, l'humanité n'avait pas du tout le même accès à la connaissance. Et quand quelqu'un apprenait quelque chose à l'école, c'était pour le savoir. Donc là, on se retrouve sur un modèle où, en fait, les enfants veulent avoir des bonnes notes, mais ils ne cherchent pas à retenir le contenu parce que ce savoir ne les intéresse pas. Le jeune en question m'a dit, il suffit que je demande à Internet.
Oui.
Sauf que, est-ce qu'il aura la curiosité d'aller regarder sur Internet ? C'est même pas dit. Il y a cette perte de curiosité qui, moi, je trouve, est assez dramatique. On en parle régulièrement. Je trouve vraiment qu'il y a un grand manque de curiosité. Alors que les réponses sont là, elles sont autour de nous. Internet, bon, ok, c'est un outil qui pourrait être diabolique d'une certaine manière, mais qui est aussi merveilleux. On a un accès à la connaissance qui est fascinant. Je suis sûre que demain, n'importe qui s'intéresse à la Méditerranée peut synthétiser avec un minimum de moyens une grande quantité de connaissances juste pour nourrir sa curiosité. Mm-hmm. Est-ce qu'il aura cette curiosité vis-à-vis de la Méditerranée ? Pas forcément. Nous, ce qu'on essaie de faire dans un film comme Posidonia, et à travers, on va dire, toute cette aventure et donc son suivi, c'est d'amener les gens à s'y intéresser à nouveau, ou s'y intéresser tout court, si ça leur était jamais venu à l'esprit, par exemple, en leur montrant, on va dire, des choses qui sont touchantes. On a des paysages qui sont absolument magnifiques. On a des littoraux qui sont splendides, on a des zones qui sont aussi extrêmement urbanisées. Ce contraste peut être montré. De même que quand on va montrer, par exemple, des déchets sous l'eau, ils sont là. Mais c'est pas pour faire du catastrophisme, évidemment, qu'il y en a des déchets. Il y a des zones où il y a beaucoup plus de déchets que de poissons. Mmh. Par contre, on va aussi montrer le contraste avec des zones qui sont splendides. Tout est là. Il y a les déchets, il y a des zones sensibles, il y a des zones splendides. Et du coup, on essaie de ramener, on va dire, cette beauté, cette envie, on va dire, d'aller cultiver sa curiosité par le biais de l'image et du son. Mais on va dire, souvent, les gens, quand ils regardent un film, ils sont quand même plus attentifs à l'image qu'au son.
Et de l'humain.
Ouais, c'est pas mal, ça.
Voilà, c'est très important, parce que Nelly parlait, je m'excuse, je coupe la parole, mais tout à l'heure, d'Internet. Internet, effectivement, c'est une mine d'or, mais c'est froid. Voilà. Donc, d'avoir une tonne de connaissances sans qu'il y ait nécessairement un bon vecteur pour le transmettre, ça sert à rien. Alors qu'un minimum de connaissances, moi, je parle du cycle de l'eau, là, en 5 minutes, c'est réglé. J'envoie de l'énergie. Mon énergie, je la transmets, le gamin, il reçoit, ah oui, c'est ça le cycle de l'eau, point à la ligne, c'est tout. Donc, et c'est un petit peu le paradoxe de notre univers maintenant, c'est-à-dire qu'effectivement, on a la connaissance à portée de clic, il y en a beaucoup, 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 alors bien sûr qu'il y a aussi pas mal de bêtises, quoi, mais c'est froid. Donc un gamin qui vous dit, effectivement, bon, j'ai qu'à aller sur Internet, effectivement, il peut l'avoir, quoi. Alors qu'un prof qui, lui, peut être passionné ou un intervenant et qui envoie cette même connaissance, voire même à la limite à un niveau inférieur, de toute façon, ce sera retenu. Et on est en train d'enlever l'humain. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'humains dans nos films et qu'on a choisi donc des scientifiques qui ont une sacrée patate, quoi. Voilà. Donc, et ça, c'est important. Donc il n'y a pas que la connaissance pure, il y a aussi le vecteur, la passerelle.
Merci pour ces passages,
ces transmissions
passionnantes et votre bien belle manière avec ces images. C'est toujours un plaisir de revoir ce que vous publiez. Voilà. Et donc, on se languit de voir ce prochain documentaire. Posidonia.
Et puis peut-être qu'on se reverra entre-temps, quoi.
Ah oui, avec plaisir. Alors, on parlait d'étapes...
Il faut savoir que le film, en fait, il a quatre grandes saisons, ce film. Donc, se retrouver sur un suivi, on va dire, saisonnier, c'est tout à fait cohérent. Et puis, j'espère que certaines personnes auront l'envie de suivre, on va dire, ces saisons. Parce que la Méditerranée, elle est différente sur chaque saison. Hein. C'est incroyable.
Vous avez une boîte de secours. et pour les haltes des haltes de nuit, quoi, pour alors, vous ressourcer.
C'est intéressant de parler des haltes parce qu'il y a différents types de haltes. D'abord, les haltes en pleine eau. D'abord, pendant la période de nage, on va rarement sur la berge pour se dire on se fait un pique-nique. On oublie ça. Donc déjà, première halte, on va dire, ça va être celle dont on parle quand on nage. Ça se fait en pleine eau, donc Bruno me donne la béquille, littéralement, il me donne à manger, je repars avec mon taux
comme
de sucre.
Comme un dauphin.
Littéralement. Ah oui, mais comme un dauphin. Comme une otariche, je sais pas. Mais y a, ce type de halte, pour nous, est très importante. Moi, il faut que je grignote un truc à peu près toutes les trois quarts d'heure, toutes les heures, en fonction de la température de l'eau et des conditions de mer, on va dire. Après, on a, on va dire, les haltes où on se pose franchement. Ça, c'est quand on arrive généralement en camping. Pour nous, c'est beaucoup plus pratique de travailler avec un van et de se poser en camping que se retrouver à l'hôtel avec tout notre matériel. Il ne faut même pas imaginer avec les combinaisons, les plombs, les saves. Ouais, il faut tout dessaler le soir. Donc, on est généralement en camping. Et on est donc sur la côte à peu près une semaine sur deux pendant tout 2024. Donc après, on a notre retour chez nous où il y a quand même beaucoup de travail de bureau. Voilà, donc on a trois types, on pourrait dire, de halte autour de ce projet. Après, il va y avoir une grande période qui sera la période de montage, qui va durer plusieurs mois en 2025, qui n'est absolument pas une halte. C'est une période extrêmement longue. Et puis ensuite, on espère pouvoir redonner, on va dire, un tour de clé à ce film avec cette fois-ci les diffusions télé et puis les diffusions auprès du public scolaire, ciné-débat, etc., etc., pour rencontrer les gens et puis en parler un maximum, quoi.
Alors j'imagine aussi que pour le montage, vous l'avez dit, c'est pas simple de couper, de pas tout garder, évidemment, pour 50 minutes. Ça va être difficile, même pour vous deux, entre vous, de choisir les mêmes images à conserver.
Le dernier mot, c'est Nelly qui l'a, on va dire, parce que c'est elle qui est au montage. Mais je crois, je vais pas dire de bêtises, reprends-moi, mais Durance, je crois qu'il y a 30 000 plans.
Ouais, on peut mettre des dizaines de milliers de plans, on va dire, à la base, qui ont été tournés. C'est-à-dire qu'il y a plein de plans qui ont été tournés.
Alors, ça peut être une seconde.
Ça peut être des photos aussi.
De oui. Tout simplement.
En fait, on est sur des rushs. C'est-à-dire que les rushs, ça comprend également les sons. Il faut savoir que toutes les bandes sons, on les refabrique, littéralement. Peut-être pas toutes, mais une grande partie. Sur Posidonia, elles seront moins refabriquées parce qu'il y aura beaucoup de bruit d'eau qu'on veut garder natif. Mais sur un film comme Durance, par exemple, qu'on a fait précédemment, il a fallu refaire une grande partie des bandes sons. Donc, tous ces plans, on va dire, vont dans la tour de montage. On appelle ça des rushs. Et ensuite, il y a un long travail, on va dire, pour faire des choix. Dont le scénario est écrit en avance, mais après il est réadapté au montage en fonction des réalités de ce qu'on a comme plan, comme contenu. Et puis ensuite, au final, il faut faire des choix. Et faire un film, c'est apprendre à faire des sacrifices. C'est savoir faire des choix et se dire, ça c'est génial, mais je ne pourrais pas le faire passer. Je le garde peut-être sous le coude pour quelque chose. Et ça aussi, c'est génial, je ne pourrais pas non plus le faire passer. Et on en a beaucoup des comme ça. Donc, on a de la chance cette fois-ci parce que Posidonia, il y a quand même ce projet éducatif qui est avec. Et sur le projet éducatif, on pourrait dire qu'on fait passer une partie de ce qu'on pourrait appeler une forme de surplus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne verra pas dans le film, mais qu'on voit dans le projet éducatif, dans les vidéos qui sont montées. C'est pour ça que j'encourage les gens à les regarder, même si elles sont toutes petites, elles sont simples. On fait ça amusant, on va dire, en 2-3 heures, on fait notre petit montage, c'est assez simple. Mais par contre, ce qui est dedans, c'est pas dit que ça apparaisse dans le film, pas du tout. Et personnellement, moi, ça me fait un petit peu avaler cette part de sacrifice, de pouvoir au moins restituer cette partie-là, quoi.
Je suis impressionnée de tant de travail. Moi qui me noie dans un verre d'eau maintenant, je peux dire, face à ça. bravo pour...
Mais ça s'autogénère tout ça.
Cette organisation...
C'est exactement ça, ça s'autogénère. Plus on en fait.
Les films se superposent, c'est-à-dire que Posidonia, moi j'ai commencé à l'écrire au retour d'Adam Delac, c'est-à-dire en 2018. Donc en 2018, quand Nelly est rentrée, d'ailleurs je crois que c'est le dernier plan, dernier plan réel du film. J'étais en train de la filmer, elle sortait de l'eau, je lui ai demandé ses impressions, et puis en fait, je crois que Nelly a dit qu'elle voyait plus loin, qu'elle voulait donc partir en mer. En fait, ça s'est fait, et l'idée est partie de là. Donc, et il a fallu tout ce temps-là pour écrire le film, parce qu'en fait, Nelly parlait de scénario. Alors un film, c'est pas des images bout à bout, et de la musique et des sons, c'est pas ça, loin de là. Donc il y a une histoire, donc il y a des intervenants, il y a ci, il y a ça, c'est rythmé, c'est très proche d'une mélodie en fait. Il faut que ce soit rythmé, il faut que ce soit équilibré, il faut arriver à transmettre le message de fond, mais à faire en sorte que la forme soit très assimilable, esthétique. Et au préalable, il faut savoir quel public on vise, comme toi en chanson. Bon, il est évident que on va pas aller présenter ce film à tel public s'il a pas d'écoute. Donc il faut arriver à paramétrer tout ça et puis après s'y tenir. Une fois que le scénario est accepté, que le projet documentaire a été accepté par les télés, les ci et les ça, les financeurs et tout, bon, ben, l'aventure en elle-même, le tournage en lui-même n'a pas été fait, qu'on est déjà obligé d'en écrire un autre. C'est-à-dire que moi, là, concrètement, je suis en train de travailler sur un film sur l'Islande, je suis en train de travailler sur un film sur la résilience, je suis en train de travailler sur un film sur le pisli. Le pisli étant le croisement naturel, donc, du grizzly et de l'ours blanc, donc, que je vais appeler l'ours du réchauffement. Tout simplement. Voilà, donc, il y a tout ça. Alors, à chaque fois, c'est 2-3 ans, c'est pour ça que ça va durer.
Et oui.
Donc, c'est. Et à chaque fois, c'est toujours aussi engagé, donc, c'est balèze, ouais.
Il faut savoir que sur un projet comme Posidonia, où on va dire qu'il y a quand même une part de tournage qui concerne une aventure qui dure longtemps, qui est quand même franchement engagée, beaucoup de gens focalisent, on va dire, sur on va dire l'aventure sportive, parce que c'est ce qui accroche et c'est voulu, on l'a créé comme ça, c'est une réalité. Mais moi, quand je me suis mise à l'eau sur le premier jour de nage de Posidonia, là, ce mois de janvier, ce jour-là, donc on était sur Marseille, je me suis dit, ouf, enfin je souffle, je peux m'arrêter un petit peu. J'ai plus qu'à nager là, juste fini les responsabilités, fini de chercher des financements, de faire des dossiers, etc., etc. J'ai juste à nager, génial. et finalement, c'est vrai que la partie, on va dire, qui est sportive, qui accroche, c'est loin d'être la plus complexe. Hein. Mais par contre, personnellement, c'est celle que je vis le mieux.
Heureuse comme un poisson dans l'eau.
Ah, voilà. Complètement.
Est-ce que on clôt l'émission? Oui.
Ben, je
vous
pense
voulez rajouter
que oui,
quelque
non,
chose
non, on pourrait en parler pendant des heures et des jours, mais bon,
voilà,
je crois qu'il faut aussi rester
Vous reviendrez.
On revient tout
voilà.
le temps.
Voilà, et merci donc, d'être voilà. venu.
Merci, Odile.
Eh ben, une fois de plus, merci à toi, Odile.
À bientôt.
À bientôt.
Voilà. Et donc, on peut suivre, on peut vous suivre en allant sur le site.
Alors, deux manières possibles, pour ceux qui utilisent Facebook, donc la page Facebook des Marcheurs de la Terre. Et pour ceux qui préfèrent pas utiliser Facebook, il y a le site d'Octopus Productions. Alors attention, Octopus, c'est un jeu de mots. Ça s'écrit O-C-T-O-P-U-C-E. Et donc là, sur ce site, il y a donc les pages de nos films. Donc il suffit de trouver la page de Posidonia. Et donc, il y a une sous-page, on va dire, qui est dédiée au suivi pédagogique de la nage.
Merci.
Merci
et
à toi.
Et puis, bon courage et à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.